Radio Capi.
Oh, Capi.
À la présentation du journal, Daniel Tambizoni.
Début hier des consultations nationales par le président de la République, mais la société civile Ville de Béni plaide pour une attention accrue sur la sécurisation et le développement de l'Est du pays en particulier. Célébration hier 2 novembre de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. L'UNPC Kananga dresse un bilan mitigé, tandis que journaliste en danger Béni annonce une légère amélioration. La ville est classée 6e sur la liste des agresseurs des journalistes alors que l'année dernière elle était 2e. L'INRB a fermé le centre de dépistage Covid installé dans ses locaux ici à Kinshasa et a ouvert un autre à l'aéroport international de Ndjili. Nous en parlons dans ce journal avec notre invité du jour, Dr Jean-Marie Kayembe du secrétariat technique de Riposte. Voilà pour les titres à tous. Bonjour et bienvenue à cette édition. Le gouvernement congolais devrait mettre l'accent particulier sur la sécurité et le développement et non sur le partage du pouvoir entre politiciens. C'est le point de vue de la société civile de Béni hier lundi à l'occasion du début des travaux de consultation initiés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour constituer l'Union sacrée de la République. Kizito Angbin, son président, salue cette initiative qui devrait selon lui apporter un nouveau souffle à la politique et au profit des populations des zones insécurisées en général et celles de l'Est de la RDC en particulier. Kizito Binhangi au téléphone de Guylaine Kassassia.
Pour la société civile de Béni, voudrait que après ces consultations, les institutions soient d'abord stables pour travailler sur les questions prioritaires, notamment la question sécurité. Parce que dans plusieurs provinces, l'insécurité règne à maître. Nous ne voudrions pas voir après la consultation, maintenant on commence à se partager le pouvoir entre les politiciens. Donc nous ne voudrions pas voir également cette cacophonie qui existe entre les politiciens parce que cette cacophonie ne nous paye pas, nous, comme population au niveau des Béni. Parce que quand les politiciens s'occupent de leurs intérêts privés, en tout cas, l'intérêt général est bafoué et ne permet pas l'évolution de la RDC. Vous savez qu'on doit prioriser la sécurité, mais également le développement.
S'agissant des consultations proprement dites, je vous rappelle que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu hier avec différentes délégations des institutions d'appui à la démocratie. C'est notamment les présidents de la CENI, Corneille Nangaa, de Joseph Olingankoi du CENSA, de la délégation de la CNDH, conduite par son président Mouchi Konkwe, ainsi que du représentant de la CIME, Imam Moussa. Si la CENI se dit prête à parer à toute éventualité en cas d'élection anticipée, le CENSA préconise plutôt un tête-à-tête Tshisekedi Kabila avant toute consultation. Cependant, pour le CNDH, ce qui importe pour le chef de l'État, c'est de mettre en avant-plan le droit du peuple. Enfin, pour Imam Moussa de la CIME, qui a remis son cahier de charge au chef de l'État, il lui demande en outre d'interroger sa propre conscience pour sortir le pays de la zone de turbulence où il se trouve maintenant. Par ailleurs, le chef de l'État a également reçu des personnalités dont le cardinal Laurent Mossengo, ce dernier qui affirme lui avoir remis son mémo au président. Lui demande, au-delà de tout, de s'attarder sur les questions économiques du pays pour améliorer le bien-être du peuple congolais. Le cardinal Mossengo au micro de Jacques-Yves Molima.
Nous avons eu un mémo que nous lui avons présenté, dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour tout homme, pour le développement du pays, l'économie pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé. Nous le félicitons pour cette initiative qu'il a prise. Et grâce à cette initiative, il arrivera à avoir une série de réponses qu'il pourra, par après, étudier avec des gens. Et qu'il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes, ressources de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la pirogue.
Allons à présent dans le Kasaï central où l'Union nationale de la presse congolaise UNPC dresse un bilan mitigé de la liberté de la presse. Le bilan est dressé par le secrétaire provincial sortant de l'UNPC Kasaï central hier lundi. C'était en marge de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes célébrée le 2 novembre de chaque année. Sosthène Kambidi a cependant noté que deux journalistes ont été interpellés alors qu'ils exerçaient leur profession. Une station de radio est censurée depuis janvier dernier à Kananga. Sosthène Kambidi au joint de téléphone par Blaise Ndongala Mayanda.
Il y a lieu de noter que c'est l'exercice de la liberté de la presse de la province, ni figue, ni raisin. Aucun journaliste n'est en tôle, mais il y a eu seulement deux journalistes de la radio Full Contact, Maurice Kalumet et Zachary Kankou, qui avaient été interpellés au niveau du parquet pour le président de la province de Kananga. Ils avaient passé une nuit et puis ils avaient été relaxés. Donc au jour d'aujourd'hui, aucun journaliste n'est en détention pour son travail de journaliste.
Alors, quel est le message que vous pouvez lancer en marge de cette journée à tous les journalistes ainsi qu'à toutes les autorités politico-administratives?
Aux autorités de travailler en faveur de la liberté de la presse, surtout permettre aux journalistes d'accéder aux sources d'information, aux journalistes de se les saisir et de faire leur travail. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si nous devons faire un bilan. Il y a combien de journalistes à Grand-Angle? C'est encore un débat qu'il faut engager. Nombreux sont devenus des champs pour la réalité politique. Qu'ils ont perdu tout le sens du travail qui est le leur.
Dans le même temps, au Nord Kivu, l'ONG Journaliste en Danger, JED, parle d'une légère amélioration concernant les atteintes à la liberté de la presse en dépit de plusieurs cas d'agression et d'interpellation des journalistes enregistrés l'année en cours. C'est le correspondant de cette ONG syndicale des journalistes au Nord Kivu qui l'a dit hier lundi à Radio Kapi. Toufer Wundi au micro de André Kitenge.
Nord Kivu a aussi occupé, je vais dire, une amélioration de son score. Parce que toutes les années, le Nord Kivu était deuxième province prédatrice de la liberté de la presse en RDC. Pour cette année que nous sommes en train de clôturer, de par le monitoring de JED, qui part de novembre, du 2 novembre 2019 au 2 novembre 2020, le Nord Kivu est sixième province. Ça veut dire qu'il y a une amélioration légère des atteintes à la liberté de la presse. Donc, on peut se féliciter du fait qu'il y a cette petite transition. Mais nous ne voulions pas que le Nord Kivu soit dans les top 10. Le souci, c'est qu'il faille que le Nord Kivu soit la 26e province, super la dernière, où on ne peut pas observer des cas d'atteinte à la liberté de la presse. C'est le souhait. Et donc, pendant cette période, on a connu beaucoup d'agressions des journalistes. On a connu des journalistes qui ont été ciblés parce qu'ils font leur travail et interpellés pour avoir donné une information qui n'a pas plu à une ou telle autre personne.
Toujours dans le même ordre d'idées, dans la province du Maniema, les animatrices de l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM Maniema, ont sensibilisé les femmes agricultrices du secteur de Wasongola à Lukungu, dans le territoire de Kailo. La sensibilisation a porté sur la contribution de la femme rurale au développement socio-économique de la province. La directrice intérimaire de l'UCOFEM Maniema fait savoir que cette rencontre rentre dans le cadre des activités prévues pour le mois de la femme rurale. Elle vise cette sensibilisation à amener la femme rurale à comprendre son rôle dans la vie socio-économique des communautés. Alima Kikuni est au micro de Florence Kizalunga.
Nous ignorons que nous sommes dans les mois de la femme rurale. Nous, comme UCOFEM, communicologues, nous sommes dit quand même que nous puissions organiser plusieurs activités pour sensibiliser cette femme rurale. Et de ces activités, nous sommes dit que nous allons faire des émissions radio, faire des sensibilisations sur terrain, pourquoi pas aussi des séances, des séminaires pour renforcer la capacité de ces femmes rurales. C'est ainsi que nous avons d'abord choisi Lukungu, afin d'interpeller la conscience de ces femmes rurales pour les encourager des rôles qu'elles sont en train de jouer dans la société. Les rôles que nous, femmes de médias, nous les appelons comme nourricières, car elles détiennent la vie de la communauté entre leurs mains. Nous leur avons demandé de considérer l'activité agricole comme toute autre activité qui paye et qui fait vivre.
Nous restons au Maniema, mais pour parler autre chose, l'Assemblée provinciale, le président, la présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema demande aux femmes et aux filles de la province de participer à la vie politique au niveau local. Docteur Gertrude Kitembompala l'a dit dimanche 1er novembre à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'atelier de renforcement des capacités des femmes et filles du Maniema sur la construction d'un leadership fort et efficace à la base. Elle a exprimé son attente de voir se constituer au niveau local un noyau de femmes leaders capables d'influencer la politique publique. Docteur Gertrude Kitembompala le dit au micro de Florence Kizalunga.
Nous attendons des participantes de ces assises l'existence au niveau local d'un noyau de leaders femmes capables d'influencer la politique publique en faveur de la femme à des instances décisionnelles locales. Le renforcement des réseautages et accompagnement des relais communautaires qui soutiennent le combat de la femme au niveau local. L'élaboration d'un cahier de charges sur la participation politique au niveau local en soutenant leur plaidoyer. L'ouverture d'un cadre permanent de dialogue entre les autorités politico-administratives et les femmes à la base. Nous voulons insister sur un dialogue ouvert et franc. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema, à travers ma modeste personne, est disposé à vous offrir régulièrement des espaces d'échange pour qu'ensemble, nous puissions œuvrer de façon continue au bien-être de notre population.
La clinique El Rafa de Kananga a démarré hier lundi des consultations gratuites des femmes porteuses de différents cancers et d'autres complications gynécologiques. Ces consultations devront se clôturer le 16 novembre prochain. Le responsable de ce centre hospitalier, Dr John Bimfoulou, a indiqué avoir initié cette campagne porte ouverte pour aider les femmes kassaïennes qui, selon lui, n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Ce gynécologue obstétricien le dit au micro de François Kadima.
J'ai initié tout simplement la campagne de consultation porte ouverte aux femmes centres kassaïennes pour pouvoir les aider. Les femmes kassaïennes ont des maladies et personne ne vient à leur secours. C'est comme ça qu'en tant que fils de la province, je me suis dit je viens au secours de ces femmes sans partenaire. C'est ma propre volonté d'aider. C'est ma manière de contribuer au développement de cette province ici.
Elle consiste en quoi réellement?
Elle consiste à consulter toutes les femmes, dépister les différents cancers chez la femme, le cancer de sein, le cancer du col, qui est très fréquent chez nous, les femmes qui ont les problèmes, qui ont des myomes, des kystes ovariens, les problèmes de stérilité, qui ont des adhérences pelviennes, donc toutes les maladies de la femme. Pendant 2 semaines, les portes de la clinique de la Rafa sont ouvertes et nous prescrivons les traitements. Ceux qui ont des cas à opérer, eh bien, on les aligne pour être opérés. Dans notre contrée ici, c'est pas facile de voir un gynécologue. C'est pas facile. Donc je donne cette occasion aux femmes de rencontrer un gynécologue pour pouvoir expliquer leurs problèmes.
Allons dans la province du Tanganyika où une femme accusée de sorcellerie est décédée hier lundi par mutilation au village Ewabura, situé à 18 km au nord-ouest de Kongolo. L'assassin, c'est son jeune frère. Le conseil de sécurité de Kongolo s'est déporté sur les lieux. François Avimibé nous explique les circonstances qui ont entouré ce crime.
C'est le décès de l'enfant du bourreau présumé auteur de la mutilation qui a provoqué la mort de la victime. La victime est une femme de 54 ans, habitant le village d'Ewabora, en même temps que son jeune frère, le criminel présumé. Cette femme a appris le décès de l'enfant de son jeune frère qui provenait de Bukama par bateau sur le fleuve Congo. Cet enfant d'environ 20 ans s'est jeté à l'eau dans des circonstances qui restaient jusque-là non élucidées. Le bateau, en provenance de Bukama, est attendu à Kongolo dans les 72 heures qui suivent. La nouvelle du décès de l'enfant est parvenue au village de Wabora où vivent ses parents. Des parents qui ont décidé d'observer les deuils. C'est en arrivant au deuil de l'enfant de son jeune frère que la victime sera traitée des sorcières responsables de la mort de l'enfant sur le fleuve Congo. Le corps mutilé à coups de machette gît depuis le matin dans les villages. Saisi de la nouvelle, le conseil de sécurité du territoire de Kongolo est arrivé sur les lieux. Rien ne filtre encore du village Ewabora. Kalemi, François Djabimbe, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'actualité en dehors de la RDC nous conduit en Côte d'Ivoire et c'est une information RFI. Le président Ouattara est réélu pour un troisième mandat selon les résultats proclamés par la commission électorale indépendante dans la nuit de lundi à mardi. Alassane Ouattara a obtenu 94,27% de voix après avoir proclamé les résultats département par département pendant plus de deux jours. La commission électorale indépendante a annoncé dans la nuit de lundi à aujourd'hui mardi les résultats complets de la présidentielle du samedi 31 octobre. Alassane Ouattara, 78 ans, est vainqueur avec 94,27% de voix. Pascal Afingesan et Henri Conan Bédier, qui ont boycotté le scrutin, n'avaient pas retiré formellement leur candidature, sont crédités respectivement de 0,99% et 1,66%. Kwadio Konan Bertin a obtenu 1,99% selon ses chiffres officiels.
L'invité.
Et place à présent à l'invité de ce journal, le docteur Jean-Marie Kayembe, membre du secrétariat technique de riposte chargé de la prise en charge des malades Covid. Il nous parle de la fermeture du centre de dépistage Covid dans l'enceinte de l'INRB et du centre de dépistage ouvert à l'aéroport d'Ndjili. Il répond aux questions de Blaise Chindani.
Bonjour professeur Jean-Marie Kayembe. Nous avons appris que le centre de dépistage pour la Covid-19 dans l'enceinte de l'INRB est fermé. Que doivent faire les voyageurs pour obtenir ces tests qui leur donnent le droit de prendre leur vol?
Il y a certainement ou il y aura des informations beaucoup plus précises pour une solution alternative. Je sais qu'il y a eu déjà un message du secrétariat technique. Probablement la diffusion souffre de quelques lacunes. Qui fait de Ngaliema, en l'occurrence, qui fait des cliniques universitaires, mais aussi d'autres centres qui vont certainement servir à cette activité pendant les instants de fermeture de l'INRB. Donc, le secrétariat technique a pallié à toute cette situation pour qu'il n'y ait pas de perturbation majeure.
Un centre de dépistage est ouvert à l'aéroport pour les voyageurs provenant des pays étrangers. Mais ce n'est pas connu. L'information ne circule pas quant à ce.
Oui, je dois avouer que tout est dans ce domaine, surtout question d'information, la bonne et en temps réel. Nous avons d'ailleurs une réunion du secrétariat technique pour essayer de porter l'information, la vraie, qui devrait être suivi par la majeure partie de citoyens. Vous avez, comme moi, appris l'incident survenu à l'aéroport par nos compatriotes venus d'ailleurs, de France en particulier, qui se sont farouchement opposés à la réalisation d'eux. Mais je pense que tout est dans l'information qui doit être donnée et savoir pourquoi des dispositions sont arrêtées. Ça, le secrétariat technique a une réunion, comme je vous répétais tantôt, qui va certainement voir comment améliorer cette communication.
Que deviennent les voyageurs qui ont fait le dépistage à l'aéroport? Ils se rendent chez eux ou ils sont mis en quarantaine en attendant les résultats?
Non, il n'y a certainement pas de mise en quarantaine. Mais vous savez qu'aujourd'hui, avec le fait d'expliquer, et surtout que ce dépistage doit ne pas prendre plus de 24 heures, la personne rentre chez elle, la personne est isolée, s'isole à temps chez elle, et il y a bien sûr le port de masque correct qui est une recommandation évidente. Il n'y a pas à isoler les gens. On verra bien pour ceux qui se révèlent positifs avec l'encadrement nécessaire, informationnel et aussi psychologique, comment ils pourront être pris en charge.
Mais pourquoi les tests à l'aéroport ne concernent pas les voyageurs nationaux?
Les voyageurs qui viennent d'ailleurs, vous voulez dire?
Oui, des provinces.
Il faut tout commencer, même lorsqu'il y a une organisation, il faut la commencer en regardant la capacité de résorber tout ce que l'on peut faire. Déjà, nous avons eu de la simulation pour les voyageurs venant de l'extérieur. Et en fonction de l'évolution, et surtout des provinces qui sont des hotspots dans notre pays, comme aujourd'hui le Nord Kivu, certainement des mesures vont être envisagées, mais elles doivent se préparer. Et j'insiste, comme pour la formation moderne aujourd'hui du médecin, j'insiste sur les efforts de simulation.
Ces derniers temps, on a remarqué un nombre important de malades atteints de la COVID-19 dans nos hôpitaux. Pourquoi, d'après vous, professeur?
Donnez-moi un exemple d'un nombre important dans nos hôpitaux.
Non,
je ne vais pas non plus, moi, me servir des réseaux sociaux comme étant une source.
Nous nous basons de votre statistique. On a remarqué que par rapport aux semaines passées, la semaine dernière, il y a eu quand même une augmentation du nombre de malades.
Pour nous, la situation n'est pas uniquement celle de la semaine passée. La situation est celle qui s'inscrit dans la durée. Prenons par exemple le mois qui vient de se terminer. Comment ont fluctué les cas d'hospitalisation? Je ne dis pas qu'il y a zéro. Mais ce matin, par exemple, j'étais encore en contact avec le responsable à Montcollet, par exemple, où il y a un seul malade. Clinique universitaire, il y en a trois. C'est vrai qu'il y a des centres où on en a eu un petit peu plus, mais sachez qu'on a intensifié notamment l'activité du diagnostic Covid voyageur, parmi lesquels on a certainement, et de temps en temps aussi, des cas positifs. Tout ce que nous sommes en train de dire ensemble, c'est pour dire absolument, et le chef de l'État l'a si bien dit, finir l'état d'urgence n'était pas synonyme de fin de l'épidémie. Ceci nous invite encore à la prévention et encore la prévention. Voilà ce qui pourra nous apporter le salut quant à cette guerre qui n'est pas encore gagnée.
Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Kayembe.
Je vous en prie.
Docteur Jean-Marie Kayembe répondait aux questions de Blaise Chindani Kambala, et c'est l'invité de ce journal qui est à présent terminé. Merci de le retrouver sur www.radiocapi.net.